Alors ce matin, j'aimerais allier la prédication avec un court témoignage, le témoignage de notre famille, de ce qu'on a vécu l'an dernier. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que vous avez beaucoup prié pour nous, mais je vais faire quand même un rapide résumé pour celles et ceux qui, auxquels il manquerait des épisodes ou qui n'auraient pas eu vent de cela. Nous vivions en Écosse encore jusqu'en 2019, merci Sheena. Et Sheena est tombée enceinte, on se réjouissait de cet enfant et on a déménagé en plein milieu de la grossesse en Autriche. Lydia est née le 3 avril 2020, elle a 17 mois aujourd'hui, pas aujourd'hui mais elle a eu 17 mois récemment. Et bon, ben, c'était notre premier enfant, on était parents en herbe, comme on dit. Hein. Et on a fait notre mieux. Mais on a eu beaucoup de fatigue et Sheena particulièrement. Et Lydia a eu aussi une jaunisse tardive. Du coup, tout cela, la fatigue s'accumulant, a amené, après un mois, Sheena à avoir un burn-out après accouchement. Donc, Sheena a dû prendre un traitement pour l'aider à se reposer autant physiquement que psychologiquement. Et du jour au lendemain, pour ma part, je me suis retrouvé seul à prendre soin de Lydia avec mes beaux-parents. Et Lydia a dû faire avec sa maman que quelques heures par jour et s'adapter au biberon aussi par la même occasion. C'était un temps un peu particulier. Sheena a donné les biberons à Lydia autant qu'elle le pouvait, passer que quelques heures par jour parce que c'était trop fatigant. Elle dormait dans une chambre à part pour avoir un sommeil le plus reposant possible. Bref, une vie de famille très décousue. Et voilà, le traitement aidant, on pensait voir le début d'un chemin de rétablissement. Et après un mois de traitement, Sheena a entré dans une dépression due au traitement en lui-même. Parce que ce traitement, il réduisait toute forme d'émotion. Et ça a beaucoup affecté Sheena. Et là-dessus, on rajoute le sentiment d'échec en tant que maman. On rajoute aussi la rupture du lien maternel avec Lydia et malheureusement aussi, parfois, du rejet de Lydia vis-à-vis de Sheena. Tout ça a entraîné une forte dépression et ça nous a plongé un peu plus au fond du trou. Mais au fond d'un trou où le Seigneur est venu nous visiter. Et par cette épreuve, il nous a aussi transformés de plus en plus à son image. Et voilà, c'est aussi dans cette épreuve qu'on a pu vivre, expérimenter la puissance de la prière, la puissance de vos prières, la puissance de, et le soutien d'une église et vos marques d'amour. Et là-dessus, je profite pour vous remercier parce que ça nous a touchés énormément. On s'est senti porté par vous, porté par le Seigneur, principalement aussi. Et ce temps a été aussi un temps où on a pu expérimenter les principes de vie qu'on voulait mettre en place dans notre vie. C'est généralement le temps d'épreuve, c'est le meilleur moment pour voir si nos principes tiennent la route. Et un des principes qu'on a voulu dès le démarrage de notre relation avec Sheena, c'était de célébrer les victoires, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Prendre le temps de louer le Seigneur pour des petits avancements, des petites victoires, des victoires tout simplement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire durant les mois de convalescence et de rétablissement de Sheena. On s'est réjoui du fait que Sheena pouvait à nouveau dormir avec nous. On s'est réjoui de chaque réduction de médicaments. On s'est réjoui de la connexion du lien maternel qui s'est renouvelé entre Sheena et Lydia. Il y a plein d'autres réjouissances qui sont venues petit à petit et qu'on a voulu célébrer. Et si je vous parle de cela, c'est parce que les victoires, qu'elles soient grandes ou petites, Dieu désire les célébrer avec nous. Et j'ai été interpellé récemment par le texte d'Ésaïe 12. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce texte-là et qu'on puise là-dedans des raisons de célébrer l'Éternel. Alors je vous invite à ce que vous puissiez le prendre si vous avez votre Bible ou à ouvrir votre application. Il va être projeté sur l'écran et on va lire aussi quelques versets du chapitre 15 de l'Exode. Ésaïe chapitre 12, verset 1. « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et donc, quelques versets dans Exode chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Verset 6. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme de la paille. Verset 11. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont formé, ont fondé. Un texte très riche, et j'aimerais que on tire quelques exhortations à la célébration. Alors, Ésaïe écrit ce texte et il parle de la fin d'une période de souffrance du peuple de Dieu, la fin de la déportation de l'exil. En effet, suite à la rébellion des royaumes d'Israël et de Juda, Dieu avait permis leur invasion et leur déportation. Mais Dieu avait aussi promis que cet exil prendrait fin et qu'il ramènerait son peuple chez lui, près de lui. Alors, on a lu aussi Exode 15, et je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques similitudes entre Exode 15 et Ésaïe 12. Exode 15, qui est dit généralement appelé le cantique de Moïse, vient juste après la libération de l'esclavage en Égypte. Et on a là une tradition de célébration, une tradition de chant après l'épreuve. Ésaïe, qui écrit donc bien après Moïse, en tout cas bien après le livre de l'Exode, il utilise ce même vocabulaire parce que le peuple, Ésaïe veut que le peuple se rappelle que Dieu les a déjà libérés et qu'il les libérera encore. Et j'aimerais faire une autre remarque sur notre texte, c'est qu'il y a une expression, alors autre que célébrer, qui revient deux fois dans notre passage. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Alors, Shina la connaît, parce qu'elle a lu ma prédication, mais tu comptes pas, je suis désolé. C'est l'expression « ce jour-là ». En effet, si on remet un peu dans le contexte, quand Ésaïe écrit son cantique, le peuple est toujours en déportation. Et il dit « ce jour-là, le jour de votre libération, tu célébreras l'Éternel ». Il y a là une anticipation. Le peuple est toujours dans la déportation, il est toujours dans l'épreuve, et Ésaïe exhorte à célébrer Dieu, même s'ils sont toujours dans l'épreuve. Ésaïe offre aux Juifs l'espérance de la libération. Ce jour-là, ce jour va venir, tu célébreras. Alors, si on essayait d'exprimer ça avec le langage d'aujourd'hui, Ésaïe 12 est en fait la bande-annonce du film de la libération, de la déportation. Vous savez, quand vous allez au cinéma ou quand vous avez votre programme de la soirée qui est annoncé à la télé, vous avez un court passage du film qui vous donne l'eau à la bouche pour est-ce que vous avez envie de regarder ce film ou pas ? Eh bien, Ésaïe 12, c'est ça. C'est cette bande-annonce. La libération viendra et la célébration viendra avec. C'est merveilleux. Et donc, Ésaïe aussi amène deux exemples de célébration. Dans la première partie de notre chapitre, Ésaïe invite à une célébration personnelle. Chacun doit se réjouir. Et dans la deuxième partie, Ésaïe invite à une célébration communautaire. Alors je vous invite à ce qu'on voit la première partie, les versets 1 et 2. Au verset 1, on lit « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel. » Une injonction pour quiconque lira ce chapitre. Que ce soit les contemporains d'Ésaïe au moment où Ésaïe l'écrit, mais aussi nous aujourd'hui. « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel. » Pourquoi ? Dieu a été irrité contre moi, contre toi, contre chacun, parce qu'on est pécheur. Et la colère, mais la colère de l'Éternel s'est détournée et l'Éternel nous a consolés. Le péché, Dieu ne peut le tolérer, parce qu'en Dieu, il n'y a point de faute. Or, Israël était tombé dans l'idolâtrie et s'était détourné de Dieu, tout comme nous, vous, moi. Nous étions aussi détournés de Dieu. Et Dieu nous a appelés à nous repentir. Le péché, j'aimerais juste profiter pour donner une courte définition. Le péché, c'est toute transgression de la loi de Dieu. Et dans le terme grec utilisé dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pour ça est aussi utilisé dans un jargon sportif. C'est le jargon du tir à l'arc. C'est le mot qui dit « manquer la cible ». Rater l'objectif. Et Dieu nous a créés parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Il voulait qu'on soit en relation, il voulait qu'on soit en intimité. Si c'est là notre objectif, alors le péché, c'est toute action qui ne construit pas l'intimité, la relation avec Dieu. Imaginez votre ami qui demain vous blesse, un ami proche qui demain vous blesse. Je pense qu'on n'a pas besoin d'imaginer très longtemps parce que malheureusement, ça arrive. Et même si vous l'aimez de tout votre cœur, cela va quand même, il y a quand même en vous une irritation. Vous êtes quand même irrité, il y a quand même en vous une colère parce que vous vous dites, mince, c'est mon ami, pourquoi il m'a blessé ? Il y a une incompréhension qui est là. Et Dieu a cette même vision. Il veut être en relation avec nous. Et quand nous péchons, nous le blessons et sa colère est là. Mais, et c'est là le verset que je veux citer de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, versets 8 et 9, il dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, parenthèse, alors que nous étions dans l'exil du péché, fin de la parenthèse, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, parenthèse, par son sang, Jésus nous a ramenés de l'exil. » La déportation du péché a pris fin. Fin de la parenthèse. Nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par Jésus de la colère de Dieu. Christ, en Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Les conséquences du péché, Christ les a prises. Et ça, c'est merveilleux. Et juste cette notion du salut devrait nous pousser à la célébration, n'est-ce pas ? Bon, j'ai Michel qui est réveillé là et une ou deux personnes de ce côté-là. Bref, continuons. Dieu est fidèle. Et si Dieu a ramené son peuple de l'exil, et si Dieu a offert son Fils pour nous ramener de l'exil du péché, alors il continuera par amour à nous attirer à lui, plus et plus encore. Son amour ne s'arrêtera pas. Verset 2, Ésaïe met le doigt sur quelque chose que l'on expérimente tous les jours. Parce que si on veut être honnête avec ce verset, est-ce que je célèbre à chaque instant de ma journée le salut dans mon Sauveur ? Et je dois faire le constat que non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que nous vivons et qui viennent limiter, qui viennent empêcher cette célébration. Et au verset 2, donc Ésaïe dit « Dieu est mon Sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur ». La peur. La peur est une émotion, en soi elle n'est pas mauvaise, mais si elle me contrôle et qu'elle me paralyse, alors je ne vois plus qu'elle. Et alors ma connexion avec Dieu et ma raison de célébrer est bloquée. Il y a là un empêchement. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai faite cet été. Cet été, j'ai emmené mon filleul avec son père à faire de l'acrobranche. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des parcours d'obstacles entre des arbres, entre des structures de hauteur. Et on fait le parcours. Et voilà, moi, en tant qu'adulte, j'aime ça. Et les enfants aiment ça aussi. Ça allie tout à la fois du plaisir de faire une activité en plein air et tout à la fois le challenge de réussir à franchir l'obstacle. Donc, mon filleul, Benjamin, c'était sa première fois sur les parcours pour enfants. Et alors, les parcours pour enfants, là, c'est un parcours très simple, mais Benjamin étant assez doué, quel âge il a? Il a 8 ans, 9 ans? 6 ans, pardon. Lydia. Benjamin étant assez doué, il est allé jusqu'au parcours noir, qui est le parcours le plus difficile pour ça. C'est quand même un parcours qui se trouve à 5 mètres de hauteur, pour des enfants de 6 ans, c'est déjà pas mal. Et à un moment, Benjamin s'est retrouvé complètement bloqué par sa peur. Impossible. Impossible d'avancer. Et moi, j'étais avec lui, bon, j'étais en bas, on ne pouvait pas monter sur les installations avec eux, j'étais en bas. Benjamin, tends le bras. Et il était là, et il pensait avoir tendu son bras au maximum. La peur lui faisait croire qu'il avait tendu son bras au maximum. Alors que s'il avait fait juste le mouvement restant, il attrapait la prochaine corde. Mais c'était impossible pour lui d'imaginer attraper cette corde. Il était paralysé. Alors j'ai essayé de l'encourager. Vas-y, Benjamin, t'es sûr? Tends un peu plus le bras. Rien à faire. Son père est arrivé, il était juste à côté, et il a dit exactement la même chose. Et Benjamin a tendu le bras et il a attrapé la corde. Il a terminé le parcours. C'est vrai, il y a une frustration là. Il a terminé le parcours, il est descendu, il avait un grand sourire, il était tout content. Mais à votre avis, pourquoi? Pourquoi mes conseils n'ont pas marché et ceux de son père ont marché? Parce qu'il y a une relation de confiance. Benjamin et son père ont vécu plus de choses que Benjamin a vécu avec moi, son parrain. Ils ont une relation de confiance, une relation forte entre eux. Il y a du vécu sur lequel Benjamin peut s'appuyer pour croire, malgré sa peur, qu'il peut encore tendre plus son bras pour attraper la prochaine corde. C'est merveilleux parce qu'on a cette même relation avec Dieu. Notre Dieu a fait des grandes choses. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, ramenés de la déportation, de l'exil du péché. Mais au-delà même de ça, si on regarde dans nos vies, combien d'expériences, combien de révélations du Seigneur nous avons vécues et combien tout cela devrait bâtir la confiance que nous avons en Dieu et nous aider à aller plus loin. Et c'est là où je me suis arrêté et je me suis interrogé et je me suis dit, OK, et qu'en est-il de moi? Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce matin, je me suis levé avec une boule au ventre et de me dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prêcher aujourd'hui? J'avais peur. Est-ce que je vais dire une bêtise? Et tout d'un coup, et puis impossible. Et on était au petit-déj, j'étais assis, j'avais les yeux fermés, je mangeais les yeux fermés parce que je me disais, mais comment je vais me sortir de ce piège-là? C'est moi qui dois prêcher, mais j'ai peur, Seigneur, comment? Et si on regarde qu'à notre peur, eh bien, on voit que ça. On a besoin de changer de focus, on a besoin de changer de point de vue, de changer de référence, parce que le Seigneur est là. Et généralement, quand je me prépare et que j'ai le temps le matin, j'aime bien mettre de la louange. Et là, j'ai mis de la louange et tout d'un coup, mes yeux, ça m'a permis de pouvoir porter mon regard sur Dieu, sur Jésus. Et là, je vous avoue que je prêche quand même avec la crainte du Seigneur, hein. Je ne suis pas non plus là en conquérant. Mais il y a toute une autre dimension. Parce que la crainte du Seigneur nous porte à l'humilité et nous porte à la dépendance du Seigneur. La peur nous porte tout simplement à nous recroqueviller et à être totalement inactifs. Elle nous contrôle, elle nous paralyse. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Et nous devons avancer avec lui. Et le Seigneur m'a rappelé, m'a dit, Pierre-André, ce n'est pas la première fois que tu prêches. Il m'a même rappelé, Pierre-André, regarde, c'était quand, le 28 août, tu as prêché alors que tu as eu 8 heures pour préparer la prédication et qu'on t'a appelé la veille pour le mariage de Claire et Timothée. Donc, si je t'ai aidé là, dans une situation où tu étais en stress et en pression, pourquoi je ne t'aiderais pas là, maintenant, où tu as eu le temps de préparer ce message? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Mais j'aimerais quand même nous poser la question. À qui regardons-nous quand nous sommes dans une situation d'épreuve où la peur, le stress est là, à notre porte. Je me la pose aussi, c'est pas parce que ce matin le Seigneur m'a permis d'être victorieux sur ma peur, par sa grâce, que demain la question ne se posera pas. Et Ésaïe en est bien conscient, parce qu'il dit au verset 3, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Ésaïe est conscient que, tout comme on a besoin de boire tous les jours et régulièrement, on a besoin tous les jours de se rappuyer sur la confiance du Seigneur, parce que les épreuves et les situations de stress ou de peur arriveront plus vite et plus nombreuses que ce qu'on pourrait le souhaiter. Qu'est-ce que ça veut dire puiser de l'eau avec joie de l'eau source du salut? Premièrement, boire de l'eau est vital. On le sait tous qu'on a besoin de boire de l'eau. Mais il y a aussi là une notion de joie. Parce qu'on ne boit pas n'importe quoi ou n'importe où, on boit aux sources du salut. C'est-à-dire, boire de l'eau aux sources du salut devrait être aussi une manière de se rappeler quotidiennement, aussi souvent qu'on boit un verre d'eau, que Jésus a vaincu. Et que par Jésus, je suis victorieux. Quel changement complet de camp. Quand nous étions pécheurs, nous étions sous l'emprise du péché, loin de Dieu. Et là maintenant, nous sommes avec Jésus, à boire avec joie aux sources du salut. Le camp des victorieux. Quelle joie. Puiser de l'eau, alors j'aimerais quand même que ça soit clair, on ne parle pas d'ouvrir le robinet. On parle d'une période de la vie où, et c'est encore le cas dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, où il faut aller au puits en dehors de la ville, marcher pour aller chercher de l'eau. On n'est pas dans un puiser de l'eau, c'est pas juste ouvrir le robinet comme on le pense aujourd'hui. C'était vraiment un acte vital, mais c'était un acte qui coûtait. Puiser de l'eau, c'est aussi boire en quantité suffisante. Je ne sais pas vous, mais moi, quand viennent les premières chaleurs, je dois me rappeler qu'il faut que je boive. Si je ne le fais pas, je me retrouve inévitablement en fin de journée avec les reins, une barre au niveau des reins, et si j'ai été dehors avec une insolation, c'est inévitable, parce que je n'ai pas assez bu. Et je crois qu'il en est de même pour notre foi. Si nous ne buvons pas assez aux sources du salut, alors notre foi dépérit. Si mon corps ne fonctionne pas bien quand j'ai pas assez d'eau, qu'en est-il de ma foi? Elle ne fonctionnera pas bien non plus. Ma foi ne m'aidera pas non plus à regarder à l'Éternel quand la peur est la seule chose que je vois devant mes yeux. Et quelle joie quand on est assoiffé de boire un grand verre d'eau fraîche. N'est-ce pas, Hélène? D'habitude, c'est à ce moment-là que je bois, mais là, je ne vais pas boire parce que... Là, il y a une exhortation d'Ésaïe à ce qu'on puisse aller à Jésus quotidiennement, régulièrement dans la journée, pour boire aux sources du salut. Et ce n'est pas juste individuellement, parce que si jusque-là, Ésaïe parlait de « tu diras, je te célèbre », Ésaïe, là, dit « vous ». Il y a un changement. On passe de la célébration personnelle à la célébration communautaire. Parce que puiser aux sources du salut, tout comme les femmes de cette époque-là ne puisaient pas seules. C'était un groupe qui allait au puits pour puiser. Il y avait une entraide là. Il y avait là une aide de chacune de pouvoir porter, de pouvoir puiser ensemble, de pouvoir faire ce travail vital mais aussi pénible ensemble. Et c'est ce que l'Église est appelée à faire, à ce qu'on puisse puiser ensemble aux sources du salut. Et si vous vous posez encore la question de quelles sont ces sources du salut, j'aimerais vous renvoyer à la réponse de Jésus à la femme samaritaine en Jean 4. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et c'est là la merveillosité aussi de l'Église. C'est que vous et moi, si on puise à l'eau, aux sources du salut, alors on devient nous-mêmes un canal par lequel cette eau peut se déverser sur notre frère, notre sœur en Christ, mais aussi on devient ce canal qui apporte l'eau aux gens qui ne connaissent pas Christ. C'est ça, vous puiserez en tant que communauté. Chacun a la responsabilité de le faire pour soi, mais en tant que communauté, on est appelé à le faire ensemble. Alors, on continue. Du coup, la célébration communautaire, et c'est les versets 4 et 5 que Ésaïe utilise pour cela. Ce jour-là, à nouveau ce rappel, quand vous serez dans la célébration, vous direz, célébrez l'Éternel, faites appel à lui. Et le jour de la délivrance, le jour de la célébration, nous sommes appelés à célébrer. Seuls, nos victoires, pardon, mais aussi en tant qu'Église, comme on a pu le faire dimanche dernier, avec les exaucements de prière qu'on a vécu dans la semaine. C'était magnifique. Quelle joie! Et nous voulons plus, n'est-ce pas? Et il y a là une idée qui est intéressante, parce qu'Ésaïe dit, célébrez l'Éternel, faites appel à lui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je suis arrivé là, ça m'a interpellé, je me suis dit, faire appel au Seigneur quand je suis dans la détresse, ok, ça je comprends. Mais faire appel au Seigneur quand je le loue, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me suis dit, ok, j'ai besoin de creuser un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça me semblait, Lydia, ça me semblait bizarre au premier abord. Et en fait, ça n'allait pas tant que ça, je vous rassure, hein. Parce que le Seigneur rappelle une chose. Quand il nous invite à le célébrer avec lui, il rappelle qu'il n'est pas uniquement le Dieu de l'ultime recours. Il n'est pas uniquement le Dieu que l'on prie dans les détresses. Il est le Dieu qui désire avoir une relation personnelle avec nous. C'est-à-dire, c'est un ami qui veut vivre avec nous. Si vous avez un ami qui vous invite, qui vous appelle uniquement quand il est dans le besoin, et quand il fait une surprise ou quand il fait une fête, il ne vous appelle pas, comment le sentirez-vous? Comment le vivriez-vous? Je ne suis pas sûr que cet ami restera votre ami très longtemps. Et ça c'est parfois ce que je fais, ce que l'on fait avec Dieu. On vient vers lui quand on a des problèmes, et quand on est dans la joie, eh ben, on ne vient pas si souvent que ça vers le Seigneur. Moi le premier. Et quand on parle d'une relation personnelle avec Dieu, j'ai eu ce verset de Exode 33, 11, que le Seigneur m'a mis à l'esprit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Waouh ! Alors, quand je regarde ma relation avec le Seigneur, trois questions me sont venues à l'esprit. Est-ce que Moïse était un surhomme ? Est-ce que Dieu fait du favoritisme entre ses enfants ? Où est-ce que Dieu a changé? Et le Seigneur a répondu à ces trois questions avec un non magistral. Moïse n'était pas un surhomme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il n'a pas changé. Parce que le Seigneur est celui qui a mis tout en place pour que tous puissent avoir accès à une relation personnelle, d'amitié, d'intimité avec lui. Tous. C'est son souhait. Le reste dépend de nous. Et ça, c'est important. Parce que Dieu veut vivre nos célébrations. Il veut être avec nous. Il veut chanter avec nous, célébrer avec nous. On a chanté que nos voix s'unissent à celles des anges, mais je suis sûr que quand on loue le Seigneur chante aussi. Parce qu'il aime célébrer avec nous. Pourquoi célébrer aussi? Ésaïe va plus loin. Il dit, « Vous célébrerez l'Éternel. » Vous ferez connaître ses actes parmi les peuples. Vous rappellerez combien son nom est grand. Il a fait des choses magnifiques qu'on les fasse connaître sur toute la terre. La célébration est aussi un témoignage puissant. Ça l'est d'autant plus dans un monde qui vit principalement avec deux maîtres mots. Métro, boulot, dodo, et après l'effort, le réconfort. Je ne sais pas vous, moi j'ai commencé un nouveau travail et du coup j'apprends à connaître mes collègues. Et souvent, il y a une phrase qui revient, c'est eh, « vivement que ça sonne pour qu'on puisse rentrer chez soi ». Et finalement, quand on creuse un peu, et chez soi, finalement, ben, il n'y a pas plus de joie. Donc, notre monde vit souvent avec, voit la vie comme une succession d'épreuves avec quelques loisirs par-ci, par-là. Et Dieu veut amener une autre vision. Et c'est là où vient le titre du message. Ce n'est plus métro, boulot, dodo. Ce n'est plus après l'effort, le réconfort. Mais après l'épreuve, la célébration. Parce que cela change totalement. Si vous vivez vos épreuves dans l'espérance de la libération que le Seigneur va donner, et si nous vivons nos célébrations, alors le monde va voir quelque chose qu'il ne voit pas. Il va voir un Dieu qui s'investit dans nos épreuves, mais aussi dans nos victoires. Un Dieu qui est personnel, un Dieu qui est engagé avec nous. Et ça fait toute la différence. Et c'est là aussi où Ésaïe termine avec ce verset 6. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors André l'a mentionné, Hélène aussi, on vit de l'autre côté de la croix. On vit dans un temps où le Seigneur, Jésus, a envoyé son Saint-Esprit pour habiter en nous. Imaginez ce que Ésaïe aurait pu écrire à la place de ce verset 6 s'il avait vécu de ce côté-ci de la croix. Certainement, il aurait écrit « Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, citoyen du ciel ou habitante de la Sion céleste. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint-Esprit qui vit en toi. » Alors si Ésaïe dit qu'on doit exprimer notre allégresse, pousser des cris de joie, célébrer parce qu'en Sion réside le Saint d'Israël, alors nous qui vivons avec le Saint-Esprit en nous, nous devrions encore plus célébrer l'Éternel. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions partir dans cette semaine ensemble, que nous puissions partir avec un quotidien rythmé de célébration. L'épreuve est là, mais l'espérance de la libération est aussi là. Et la célébration qui va avec devrait être là. Prenons le temps de célébrer avec l'Éternel. Amen. Seigneur, on te bénit parce que tu es ce Dieu des victoires et ce Dieu qui est aussi là quand nous sommes dans l'épreuve. Alors Seigneur, pardon quand je t'exclus de mes célébrations. Pardon quand la peur me contrôle et que je ne regarde pas à toi. Et Seigneur, je prie que nous puissions regarder à toi, porter nos regards sur toi. Je prie que nous puissions célébrer avec toi cette semaine, donner de la joie et faire déborder autour de nous l'eau que tu as donnée, cette eau qui vient des sources du salut, pour que d'autres aient envie de boire à cette source. Amen.